I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 737 de Touchdown Actu. La free agency va commencer, mais pour autant la draft ne s'arrête pas et elle ne s'arrêtera pas avant de longues semaines. On va continuer notre revue des postes, puisqu'on a fait deux épisodes un peu spéciaux sur le Combine, que vous pouvez évidemment aller voir. Là, on va retourner sur le poste par poste et on arrive sur... On ne va pas vous mentir, peut-être une des QV les moins attrayantes, mais pour autant une QV assez profonde, c'est celle des linebackers. Et pour m'accompagner, j'ai avec moi Antoine Ajavon. Salut Antoine.
Salut Victor, la première pour nous deux au micro.
Ah, c'est beau. Non mais je disais, c'est la nouvelle génération qui est en train de nous remplacer là. Moi je vous le dis, hein, c'est le grand remplacement, attention. Les jeunes arrivent, Nitti, Tonio et tout, c'est terrible. À prendre au deuxième degré. Dis-moi, d'ailleurs c'est moi qui vais commencer ce podcast parce que je ne suis pas quelqu'un de poli, mais ça nous permettra de faire une fois sur deux. On va commencer comme toujours tier 1, tier 2, tier 3. On a 3 joueurs dans chaque tiers. Le tier 1, on va dire qu'il va commencer au fin de premier tour, début de second tour. Il va commencer avec Peyton Wilson. Peyton Wilson de North Carolina State, peut-être le joueur le plus rassurant, mais d'un autre côté, peut-être pas le joueur avec le plus de potentiel, puisqu'on parle d'un joueur qui aura 24 ans, même 24 ans et demi lorsqu'il va mettre ses premiers pieds en NFL. Peyton Wilson, c'est un joueur qui a déjà de très belles dimensions, qui est très rapide, on l'a vu au Combine. Je tiens à rappeler quand même, parce que ça, c'est un truc qui m'énerve. Si vous regardez les scores athlétiques du Combine, vous allez voir tous les linebackers au niveau du poids, ils sont en rouge. C'est juste parce que ces abrutis, ils comparent sur les 20 dernières années et que le poste de linebacker a littéralement s'est métamorphosé en 20 ans. Donc, à une époque, c'était normal de faire 250-260 livres. S'ils en font 230, c'est très bien. C'est ce qu'on attend aujourd'hui. Ça leur foutrait une mauvaise note, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Donc, Peyton Wilson, pour revenir vers lui, bah déjà, gros volume de jeu. Gros volume statistique, explosif, joueur assez puissant, qui se déplace bien, qui est plutôt fluide. Je dirais que, si je suis un peu méchant, ce qui l'empêche d'être un top joueur, c'est que tout est bien, mais rien n'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il n'a pas une force non plus hors du commun, il n'a pas une rapidité. Il est très rapide, mais pas non plus... En tout cas... Très rapide au combine, mais sur le terrain, je trouve qu'il a une rapidité, on va dire, normale d'un bon prospect. Je ne l'ai pas trouvé particulièrement une fusée, on va dire. Et physiquement, pareil, il est très bon, il a tous les standards sans être un monstre. Du coup, dans un poste qui est aujourd'hui quand même un poste dévalué mais important, il faut quand même des valeurs sûres. Il faut des joueurs comme ça et je trouve que Peyton Wilson, c'est vraiment celui qui me rassure le plus de la QV. Est-ce que tu es d'accord avec moi ?
Qui me rassure sur son talent et sur ses qualités de jeu, oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est marrant que tu aies commencé en parlant d'évolution du poste parce que c'est le profil type de joueur, je pense qu'en 2004, voire même en 2014, je ne suis pas sûr qu'il aurait été sélectionné avant le troisième jour. Mais là, en 2024, il a vraiment le profil parfait du linebacker moderne. Alors, sa vitesse, pour le coup, je suis un peu moins d'accord avec toi. Je pense qu'elle ressort un peu quand on le voit jouer. Alors, ce n'est pas une flèche comme on peut le voir aujourd'hui en NFL, mais il a la vitesse qui est pour moi adéquate pour se rattraper, même quand il est débordé en couverture. Et puis moi, ce qui me plaît vraiment chez lui, et croyez-moi, c'est un compliment quand je dis ça, c'est qu'il joue comme un chien de la casse. Il ne lâche jamais rien sur toutes ses actions. Il va jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre. Et ça, c'est vraiment appréciable. Le côté où je dirais qu'il n'est pas vraiment rassurant, et malheureusement, ça, il n'y peut rien, c'est qu'il a subi énormément de blessures. Au lycée et même à la fac, des blessures assez sérieuses, au genou, à l'épaule. Et puis, il a un physique qui est tout à fait acceptable pour la NFL, mais qui reste quand même assez frêle. Ça ne va pas le gêner dans le jeu, mais ça peut inquiéter certains scouts et certains general managers quant à sa durabilité au plus haut niveau. Voilà, c'est mon seul point. Mon seul red flag, comme on dit, mon point négatif, c'est attention les blessures. Malheureusement, il n'y peut rien. Ça, ce sera un petit peu au petit bonheur la chance. Mais autrement, ouais, c'est en termes de... Si on parle seulement du joueur, c'est vraiment un profil qui est, comme tu le dis, rassurant. Rien d'exceptionnel, mais tout qui est fait assez bien.
Ouais, c'était ma conclusion justement sur la santé, qui est évidemment le point d'interrogation. On ne sait jamais. Il y a des joueurs, parfois, qui vont passer... On se souvient de Nakobe Dean, par exemple, qui vont passer des examens médicaux avant un draft et tout le monde prend peur et des mecs perdent 3 tours. Hein. Ça ouais. peut arriver, mais bon, on va dire que là, pour l'instant, en tout cas ces derniers temps, il a été plutôt épargné, donc il devrait s'en sortir.
Il n'y a plus qu'à croiser les doigts, mais bon, il n'y a pas de grandes inquiétudes à avoir puisqu'il a fait une saison assez complète finalement.
Exactement. On arrive sur notre deuxième profil. Et alors, notre deuxième profil, j'en ai parlé il y a littéralement 2 jours avec Jean-Michel, 3 jours. C'est Edgerrin Cooper, le linebacker de Texas A&M. Donc, je vais te laisser, entre guillemets, la parole sur lui parce que moi, je me suis déjà exprimé. Dans ce tiers-1, je vais commencer avec la polémique. Est-ce que c'est l'incontestable plus gros potentiel des trois ?
Alors oui, c'est le plus gros potentiel. Il y a le prospect suivant qui, moi, personnellement, me plaît un peu plus. Mais en termes de potentiel, effectivement, il n'y a aucun souci à le mettre en numéro 1. D'abord parce qu'il y a des mensurations qui sont assez exceptionnelles. 1m91, 104 kilos. Contrairement à Peyton Wilson, lui, il est plutôt jeune. Il vient d'avoir 22 ans. Et si on parle du joueur, moi, ce qui m'a plu cette saison, c'est que dans une équipe de Texas A&M qui était franchement à la dérive, lui a été vraiment la bonne nouvelle. Il n'a jamais rien lâché. Ça a été le leader incontesté, incontestable d'une défense qui finalement s'en est plutôt bien sortie. Si Texas A&M a fait une mauvaise saison, c'était plus à cause de l'attaque. Ses qualités, pareil, il est assez rapide. Alors, c'est pas une explosivité qui ressort forcément à l'écran, mais largement assez rapide pour avoir du succès en NFL. Et surtout, c'est sur les derniers pas pour finir les jeux, pour aller plaquer l'adversaire, que là, il lâche vraiment rien. Une fois qu'il est dans le joueur adverse et dans son périmètre, en général, il finira dans les bras de Jerrin Cooper. C'est vraiment un plaqueur agressif. Il a de très, très, très longs bras. Alors ça, évidemment, c'est le genre de qualité dont vont tomber amoureux les scouts, les general managers. Il a de très bons instincts aussi contre la course. Il arrive à anticiper les trajectoires des coureurs. Ça, c'est franchement notable. Un peu plus dubitatif sur sa capacité à rusher le passeur, mais de toute façon, c'est pas ce qu'on va lui demander en priorité. Pour le blitz, pareil, ses capacités qu'on voit sur le plaquage, ben en blitz, ça ressort également. C'est-à-dire qu'il est très rapide pour aller finir les jeux, pour aller au plaquage. Donc voilà, il a vraiment de grosses qualités, un gros potentiel. Ça m'étonnerait pas que si on se reparle dans 3-4 ans, ben ce soit lui le meilleur linebacker de cette QV finalement. Attention, un défaut qui se voit pour le coup, qui est assez flagrant à la vidéo, c'est qu'il a tendance à jouer très droit. Alors au niveau au niveau universitaire, ça ne lui a pas trop porté défaut, parce que, encore une fois, ses qualités lui ont permis de s'en sortir assez facilement. en NFL contre de meilleurs athlètes, des athlètes qui seront presque aussi bons que lui, voire parfois un peu meilleurs. Il faudra qu'il travaille un peu sur sa souplesse, sa flexibilité. Mais autrement, ouais, non, c'est un gros potentiel et un beau prospect. Ouais.
Oui, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins sur un truc, c'est que des linebackers qui blitz ou qui pass rush, on en a beaucoup, on en a de plus en plus chaque année, etc. Et ce qui manque, c'est des linebackers patrons du milieu de terrain, capables de jouer en couverture, capables de défendre la passe, capables d'aller chasser le joueur adverse. Et c'est vrai que ça fait du bien de voir ce profil de joueur. Bon, ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je trouve qu'en effet, ces dimensions physiques, c'est, à un moment, je me disais, ah, c'est une sorte de Nick Bolton un peu plus rapide. Puis finalement, quand tu regardes les dimensions physiques, tu te dis en plus d'être plus rapide, il a des plus grands bras. Il est, enfin, finalement, c'est Nick Bolton, mais vraiment 2.0. Donc, bon, ça ne veut pas dire qu'il aura la même carrière. Nick Bolton, je pense que ça fait partie de ces joueurs qui, avec son intelligence, joue encore mieux que son talent, si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas que talent intrinsèque qu'on aurait pu percevoir chez lui. Mais en tout cas, oui, très, très beau joueur à suivre, Edgerrin Cooper. Et on arrive sur le dernier, qui est encore plus jeune, puisqu'il aura 22 ans en décembre. Et tu me disais que c'était un joueur qui te plaisait beaucoup, en tout cas quand tu l'as regardé, c'est Junior Colson. Donc Junior Colson qui joue à Michigan. Moi, je trouve que Colson, bon, qui a vraiment explosé cette année, hein, on va le dire tout de suite, c'est probablement le meilleur joueur en couverture. Je trouve que c'est un... Il aurait pu être safety, en fait. Vu sa vision du jeu, etc. C'est un linebacker que tu aimes bien utiliser peut-être un peu plus loin de la ligne de scrimmage. Mais il est soudain. C'est pas que de la rapidité. Il est vraiment soudain. Il voit le jeu très rapidement. Il est puissant. Les changements de direction sont très bons. On sait que souvent, chez les linebackers... Bah, les changements de direction, ça coince un peu, quoi. C'est, tu vois que la hanche, elle a un peu du mal à tourner. Lui, ça tourne, hein, y a pas de problème. Il peut toujours progresser, puisqu'il est jeune, il est brut. Parfois, il y a un peu trop d'agressivité. Parfois, il se fait manger sur la feinte ou quoi. On peut toujours trouver des snaps où on dit, oh, regardez, etc. Il y a aucun linebacker qui se fait jamais avoir. La réalité, c'est que de façon de plus en plus, on va dire, constante, il est en train de montrer qu'il a un panel de jeu qui est extrêmement développé. Et je trouve que vraiment, ça fait partie de ces joueurs qui sont encore plus impressionnants sur le terrain qu'en dehors. Et du coup, pour auto-répondre à ma question, hein, parce qu'on est, on est comme ça, l'ego est énorme, moi, je pense que c'est lui le plus gros potentiel, en fait. Je pense vraiment qu'on peut avoir... Parce qu'en fait... Il a le potentiel d'être un incroyable linebacker et en plus d'être une denrée rare, c'est-à-dire ce linebacker vraiment impeccable en couverture, ce qu'on voit de moins en moins. Donc je dois avouer que c'est peut-être le joueur qui m'enthousiasme le plus et j'ai cru comprendre que toi aussi, c'était un de tes chouchous.
Ouais, tout à fait. Je serais pas étonné, je serais même ravi qu'il soit le premier linebacker sélectionné à la draft. T'as quasiment tout dit. Un truc à ajouter, c'est vraiment un plaqueur d'exception. De toutes les vidéos que j'ai vues et de tous les matchs que j'ai vus, parce que j'ai pas mal suivi, comme tout le monde, hein, Michigan cette saison, je compte sur les doigts d'une main le nombre de plaquages ratés. Ce qui est assez, assez notable pour cette NFL moderne où on demande un peu moins aux linebackers de plaquer. Finalement, ça reste quand même l'essence du poste. Et avoir un linebacker qui sait plaquer et qui ne lâche pas ses adversaires une fois qu'ils sont dans son périmètre, moi ça j'adore. C'était le meilleur défenseur de la meilleure défense du championnat universitaire cette saison. Un pedigree assez exceptionnel malgré son jeune âge. Et puis, oui, on parle souvent de potentiel. Est-ce que potentiel, c'est un joueur qui a de grandes qualités physiques et qui ne les a pas totalement réalisées comme Edgerrin Cooper, ou finalement un mec qui sort d'une saison exceptionnelle comme Junior Colson? Bon, c'est un débat sémantique, mais moi, Colson, je l'adore vraiment. En couverture, tu as tout dit, il a vraiment une lecture du jeu impeccable. Il manque ni de muscles, ni de puissance, il est fluide dans ses mouvements. Et puis le défaut que je note, que tu as très bien souligné, c'est son excès d'agressivité souvent. Il arrive à prendre des angles un peu bizarres pour ses plaquages parce qu'il est à la recherche du contact. Enfin, c'est l'impression que ça donne, en tout cas à l'écran, qui veut toujours aller contacter l'adversaire, aller le toucher. Ça manque un peu de finesse, mais bon, c'est pas un truc qui va demander énormément d'entraînement pour être corrigé. Il a vraiment énormément de talent. Il peut jouer sur trois tentatives sans aucun problème. Et c'est le genre de joueur, quand tu es entraîneur, tu mets son nom direct sur la feuille de match et tu te poses pas de questions, tu dors tranquille sur tes deux oreilles, quoi.
Oui, parfois il aime bien nous faire ce qu'on appelle une Marcus Williams, évidemment, l'épaule en avant, pour essayer de faire mal, mais si c'est Diggs en face, parfois ça passe. On va passer dans le tier 2. On va passer en tier 2. Alors, il y a un joueur qui est peut-être hybride tier 1, tier 2. On aura le débat après, mais je vais le laisser juste après. On va parler d'abord de Cédric Gray. Donc Cédric Gray, qui est le linebacker de North Carolina. Cédric Gray, du coup, là encore, ça fait partie de ces joueurs dont on entend parler depuis plusieurs mois, voire années. Et j'ai l'impression que les avis divergent selon les gens. Il y en a qui l'ont même très haut. Je l'ai vu dans certains top 75. J'étais, ah oui, quand même. Explique-nous un peu qui est Gray et quelle projection tu as pour lui.
Bah alors Cédric Gray, moi je suis un peu mitigé sur lui, surtout après le combine. C'est-à-dire que quand on le voit jouer sur le terrain, il a souvent l'air d'être le meilleur athlète sur la pelouse. Et ça, c'est un truc qui ressort, pourtant la conférence dans laquelle joue UNC, c'est une conférence finalement assez relevée. Et dans cette conférence, à chaque fois qu'il est sur le terrain, tu as l'impression que c'est le meilleur athlète, ou en tout cas très souvent. Et les résultats de son combine, finalement, sont. Bon, ils étaient bons, mais moi, je pensais vraiment qu'il allait tout exploser, qu'on allait dire, waouh, c'est bon, c'est le meilleur athlète de la QV au poste. Et ça n'a pas vraiment été le cas. On verra lors de son Pro Day s'il améliore un peu ses scores. Mais en tout cas, sur le terrain, et on va dire que c'est le plus important, finalement, il a vraiment des qualités athlétiques qui ressortent. Il est rapide, il est puissant, il est explosif. Des qualités qui se voient vraiment contre la course, où il est franchement excellent. Les angles de plaquage, on en parlait juste avant avec Junior Kelson. Alors lui, pour le coup, il n'y a aucun problème. Il arrive toujours à bien se positionner. Il a des mains très violentes pour se sortir des blocs. Ça aussi, c'est bien appréciable. Il manque parfois un peu de violence, par contre, dans ses plaquages. C'est assez paradoxal. Pour éviter les blocs, là, ses mains, il n'y a pas de souci. Dans ses plaquages, ben, parfois, même s'il est bien positionné, les adversaires arrivent à s'échapper. Et ça, c'est un des défauts qui fait que pour moi, il va pas être sélectionné lors des deux premiers tours, alors que quand on voit ses qualités athlétiques et ses qualités physiques, on se dirait, bah, allez, pourquoi pas tenter le pari dès le deuxième tour. Moi, je pense que ça va être un joueur qui sera sélectionné le troisième jour, plutôt quatrième tour, parce que voilà, il y a ce défaut des plaquages qui sont pas assurés, alors qu'il est toujours en bonne position, qu'il a, bah, cérébralement, en tout cas, il donne l'impression d'être assez sûr de ses forces, et surtout aussi, il est limité contre la passe. C'est pas un linebacker qui pourra, à lui tout seul, j'ai envie de dire, contrôler le milieu du terrain. Il aura besoin à ses côtés de bons linebackers qui seront plus à l'aise en couverture.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça, sur les plaquages, t'as raison qu'il n'est pas forcément mal placé, mais le joueur, il passe quand même. Il a quand même loupé 51 plaquages en 3 saisons.
J'avais pas la stat, mais c'est énorme. Hein.
C'est 15% de plaquages manqués. Déjà, pour un cornerback, ça me ferait tiquer, mais alors pour un linebacker, c'est dur, hein, parce que si le linebacker, il loupe son plaquage... C'est boulevard derrière. Donc, sauf si le safety est juste derrière. Bon, ça, tant mieux pour vous. Mais c'est vrai que ça peut être terrible. Je suis d'accord avec toi que Gray, en fait, moi, plus ça va, moins j'ai envie d'y toucher. C'est-à-dire que je suis comme toi. Je m'attendais. C'est quand même un joueur expérimenté. C'est un joueur, on le voit, qui. Tu parlais de chien de la casse. Bah, lui, il est pas mal aussi dans ce genre-là. Il est volontaire, en fait. C'est pas le problème du tout. Mais comme tu dis, déjà au combine, ouais, j'avais du mal à revoir le gré du terrain. Bon, on va plutôt se baser sur les vidéos du terrain, parce que c'est quand même ça qui compte. Mais malgré tout, oui, il y a ce problème du plaquage. Il est bon dans un système, mais s'il commence à coûter une fois par match 20 yards ou 25 yards parce qu'il a loupé un plaquage, il fera pas 2 ans en NFL, quoi.
Ouais,
Donc,
ça c'est sûr.
Est-ce que c'est quelque chose que tu peux coacher ou non? Ce qui m'inquiète un peu, c'est que comme tu dis, il n'est pas forcément mal placé. Donc on a presque l'impression que c'est un manque de puissance ou de volonté ou je ne sais pas. Mais c'est un risque. Si tu réussis à lui apprendre à plaquer, il peut devenir un linebacker solide. S'il ne corrige jamais ce défaut, bah, dans 2 ans, il est out. Quoi. C'est assez terrible, mais c'est la vie de la NFL. C'est ce qu'on appelle le Davion Taylor show. C'est, si vous n'arrivez pas à apprendre à plaquer, vous ne verrez jamais terrain. Bon, c'est malgré tout, voilà, on dit à tête qu'on ne pouvait pas vraiment passer à côté. Donc, on l'a mis dans le tier 2. La star de ce tier 2, c'est Jeremiah Trotter Jr., fils de son père, moins costaud que son père, hein, ce qui est un peu, on va dire, ce qui illustre l'évolution du poste de linebacker au fil des années. Jeremiah Trotter, en fait, ce qui est assez fascinant avec lui, c'est que je pense que c'est, et peut-être c'est l'éducation de papa, mais je pense que c'est le joueur le plus intelligent de cette QV. C'est le QI football le plus fort. Il arrive à vraiment diagnostiquer le terrain plus vite que les autres. Il sait couvrir. Il a la vitesse pour, il a suffisamment de volonté pour, même s'il n'a pas forcément toutes les dimensions physiques qu'on souhaiterait. Et ben là, du coup, ça va être un peu répétition générale, hein, parce que notre cher Jeremiah Trotter, ben, c'est 16% de plaquage manqué cette saison. Voilà, on est dans le même range que Gray. Et donc, c'est assez frustrant de voir ces joueurs qui ont des capacités énormes, mais qui finalement sont des sortes de bombes à retardement. Donc là encore, en plus, quand un papa qui a été linebacker all-pro, ne pas savoir plaquer, t'as envie de dire que papa, il a oublié quelque chose dans la formation quand même. Tu vois, c'est ça qui m'inquiète un peu. Mais bon, après, c'est des plaquages un peu différents, parce que je comprends bien qu'il était beaucoup en couverture, que quand tu essayes de plaquer un tight end, c'est pas la même chose que plaquer un coureur quand il arrive en face de toi dans ton gap. Mais malgré tout, il pourrait en faire plus, je pense. Et j'ai peur que ça soit aussi dans la catégorie des joueurs frustrants. Qu'est-ce que t'en penses ?
Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'irai même un peu plus loin. Je me pose la question de son vrai poste en NFL. C'est-à-dire qu'il a, bon, il est listé comme un linebacker, il a joué linebacker à l'université, il n'y a pas de souci. Mais quand tu regardes ses qualités, finalement, elles s'apparentent plus à celles d'un safety. Tu l'as très bien dit, un joueur très cérébral. Moi, une qualité que j'adore chez lui, c'est qu'il est très agressif. Il a un petit déficit de taille pour le poste, mais il compense avec une agressivité qui est assez hors pair. Il va toujours pour faire mal, dans le bon sens du terme. C'est vraiment une boule d'énergie. Et je me dis, putain, mais est-ce que un strong safety avec un peu plus de recul sur le terrain, sur quelques, alors peut-être pas définitivement, mais sur quelques jeux ici et là, il pourrait pas descendre un peu plus pour faire valoir toutes ses qualités? Parce qu'en linebacker, encore une fois, on demande, même si par rapport à il y a 10 ou 20 ans, c'est moins le cas, mais on demande en priorité quand même de plaquer. Et le plaquage laisse à désirer chez lui. Donc, franchement, je me pose la question de son utilisation à NFL. Est-ce que ce sera un linebacker à plein temps, à 80%, un peu moins? À voir avec l'entraînement et le coaching staff qui va le sélectionner. En tout cas, parce que c'est un fils d'eux, et un fils d'eux assez notable, hein, Jeremiah Trotter, il n'y aura aucun problème d'adaptation, pardon, au monde professionnel. Et ça, c'est quand même aussi notable. Il y a combien de joueurs chaque année ultra talentueux arrivent en NFL et sont complètement perdus parce que argent, notoriété, et s'adapter à un vestiaire avec que des pères de famille, c'est compliqué. Lui, il n'y aura aucun souci là-dessus. Donc, il a un avenir en NFL, il n'y a pas de souci. Comment il va être utilisé, pour moi, c'est le point d'interrogation.
Oui, je suis d'accord avec ça. C'est sûr que le papa, c'était pas le genre à créer des problèmes. Hein. C'était plutôt Pascal le grand frère, le papa, parce qu'il avait à gérer les Dawkins et compagnie. Brian Dawkins, c'était un très bon joueur, mais alors à gérer tous les jours, ça devait pas être facile. Et lui, il était au milieu de tout ça, des Javon Kears et compagnie. Donc, c'est sûr que ça c'est clair que je ne me fais pas non plus de soucis sur son adaptation. Après, voilà, je pense qu'il y a des choses à corriger. Et c'est quand même un peu inquiétant que ça ne soit pas corrigé pour un joueur qui vient, entre guillemets, quand même, ouais, d'une belle école. On va dire ça comme ça. Donc voilà pour notre ami Jeremiah Trotter. Et on va finir par... alors, je vais écorcher son nom, hein, je vous préviens. C'est terrible, je suis nul avec les noms. Marist Liufao de Notre-Dame, université très réputée, toujours indépendante. Liufao... Là, est-ce qu'on est sur le joueur peut-être le plus à la frontière entre tiers 2 et tiers 3? Parce que j'avais du mal à mettre un troisième profil dans le tiers 2. Et je dois avouer que je me suis un peu creusé la tête pour savoir qui mettre.
Je suis assez d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que contre la course, il est pas bon. Moi, je le trouve pas bon contre la course. Il a du mal à localiser la balle. Même parfois le coureur, quoi, il est à l'opposé de la direction dans laquelle va le coureur. Et ça, c'est assez embêtant d'être complètement déficient sur quelque chose qui représente peut-être pas tous les matchs, la moitié des jeux, mais quand même, quoi, c'est assez important. Par contre, il est excellent en couverture. Il a un très bon timing et surtout, il arrive à être, comme on dit, à faire le miroir avec les receveurs, les tight ends. Il arrive à leur coller au basque et il concède très, très, très peu de yards après réception. C'est-à-dire qu'il est toujours en place. Le receveur reçoit le ballon. Il a Marist. Oh, je vais écorcher son nom aussi. On va l'appeler Marist. Il a Marist qui l'attend dès le point de réception. Alors ça, c'est super. La NFL moderne est plus tournée vers la passe que vers la course. Tant mieux. Mais voilà, c'est comme les plaquages dont on a parlé tout à l'heure. Être bon contre la course, ça reste quand même important. Surtout quand on avance dans la saison, qu'il commence à faire plus froid, qu'on arrive en play-off, où le jeu de course est un peu plus prominent. Là, il faut quand même avoir quelques aptitudes. Des aptitudes que, pour moi, il n'a pas montrées au niveau universitaire. J'espère pour lui qu'il va réussir à progresser sur ce plan-là. Autrement, pour moi, ça va être un joueur de rotation. Et c'est assez dommage parce que, vraiment, contre la passe, moi, je trouve qu'il a de très belles qualités. Et ce serait dommage qu'il soit limité simplement à un rôle de rotation.
Oui, je suis d'accord avec toi. Après, là, on arrive au point où, quand je parlais de cette QV, moi, je vais être un peu... Alors, ça n'arrivera pas, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va prendre des risques, etc. Mais honnêtement, on a passé 5 joueurs, on est au 6e. Moi, je suis en projection 5e tour, quoi. C'est ça qui est un peu flippant, quand même, sur cette position de linebacker. Alors, à moins que tu reconvertisses quelques safety, c'est pas impossible, hein, parce qu'on a des gros bonhommes. Mais c'est vrai que voilà, ça fait partie du joueur. Il est polyvalent, il est intelligent. Donc, il va forcément être pris par quelqu'un. Mais déficit de puissance, déficit athlétique, qui fait qu'en fait, je n'arrive pas à l'imaginer de manière constante sur le terrain. C'est-à-dire que tu vas l'avoir sur certains packages, tu vas l'avoir... en troisième tentative ou autre, tu vas l'avoir sur des blitz, oui. Mais est-ce que tu as envie d'avoir à chaque action au premier ou en deuxième tentative? Le jour où il va croiser un Derrick Henry, il va voler en éclats, quoi. Ou sans aller jusqu'à Derrick Henry, il croise un Josh Jacobs, il vole en éclats aussi, quoi. C'est un peu ça qui m'inquiète, en fait.
Ouais, non, tu l'as très bien dit, j'ai complètement oublié de souligner, mais oui, le défaut le plus criant, malheureusement, c'est son physique. Et il n'a pas encore la carrure, la puissance et la force pure pour lutter contre les gabarits qu'il va rencontrer, notamment dans les jeux de course. C'est vraiment dommage, quoi, parce qu'il a de très belles qualités, mais les défauts sont pour moi assez irrémédiables pour être un joueur titulaire, même au-delà d'être titulaire, pour être sur le terrain plus de 50% du temps.
Je suis d'accord. On va ouvrir le tiers 3 avec mon chouchou. Mais là encore, moi, je vais faire court parce qu'on en a quand même déjà beaucoup parlé avec Jean-Michel dans le podcast il y a 3 jours. C'est Jordan McGee, le linebacker de Temple. Donc, je vais quand même présenter un peu le bonhomme. Jordan McGee, c'est un joueur qui joue avec une intensité folle de la minute 1 à la minute 60. Il a un QI football hors norme. C'est le leader de son équipe. Alors évidemment, quand vous jouez à Temple, en face, vous affrontez pas que des foudres de guerre toutes les semaines. Mais malgré tout, il a été bon semaine après semaine. Et en fait, quand on regarde des tests athlétiques et tout, il coche pas toutes les cases athlétiquement. Il est pas forcément le plus rapide. Alors, un des problèmes qu'il a, c'est que une fois qu'il est bloqué, il est bloqué, quoi. Du coup, il a pas la capacité athlétique de se donner une deuxième chance. Mais comme il est souvent bien placé, il a rarement besoin de cette deuxième chance. Et malgré tout, je trouve que c'est un joueur... je vais reprendre l'exemple Nick Bolton, qui pour moi est vraiment un... Enfin, c'est assez récent, donc les gens peuvent comprendre. Ces joueurs qui sont tellement intelligents qu'ils compensent leur déficit par leur intelligence. Alors évidemment, les déficits sont un peu plus criants chez McGee que chez Bolton. Bolton, c'était principalement un petit déficit de vitesse... Que certains lui ont mis dans les dents, et finalement, sur le terrain, ça se voit pas trop. Mais je trouve que McGee, ça fait partie de ces joueurs tellement volontaires qu'à minima, il rentrera dans une rotation, et s'il y en a un où on se dit « Tiens, j'avais pas vu venir le truc, je pensais pas qu'il serait titulaire longue durée, et finalement, blabla », bah ça pourrait être lui. Ça pourrait être lui, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, comme il est à Temple, on l'a tous très peu regardé. On a commencé à regarder il y a quelques semaines, quand des Jeremiah et tout, on commençait à dire « Oui, faites attention, machin, vous l'avez pas vu, etc. Et » Et je me demande si c'est pas lui qui va être, tu sais, la surprise pris dans un choix compensatoire du troisième tour, qui sera le choix 819, hein, parce que maintenant, tout le monde a 1 million de choix du troisième tour. Mais voilà, ce genre de petite surprise, parce que j'aime bien le joueur et j'aime bien l'attitude sur le terrain.
Je pense que c'est le genre de joueur dont un entraîneur défensif, voire un coordinateur défensif, va très facilement tomber amoureux. Parce que, évidemment, il a des défauts qui ne sont, sont pas de son fait. Il manque un peu de taille, il manque un peu de puissance, il manque un peu de vitesse. Mais malgré ça, il a des qualités qui font que les entraîneurs vont l'adorer. C'est-à-dire que le premier pas, déjà, il l'a. Il est très explosif sur le premier pas. Alors, après, évidemment, à nuancer, parce que le niveau de compétition qu'il a eu à l'université n'était pas exceptionnel. Il n'a pas joué contre énormément de futurs professionnels. Donc, peut-être que là, le premier pas paraissait plus explosif qu'il ne l'est en réalité. Mais en tout cas, quand on le voit jouer, c'est ça qui ressort. Il a de grosses aptitudes pour le blitz également. C'est-à-dire qu'on en parlait plus tôt, qu'est-ce qu'il faut pour être bon au blitz? Il faut de la vitesse pour terminer les jeux. Et lui, ça, il l'a. C'est-à-dire, quand il approche du joueur, que le joueur est dans son périmètre, il y va, il termine le jeu. Ça, c'est très bien. C'est un athlète qui est, sans être exceptionnel, qui est assez fluide. Et puis surtout, tu as parlé de son intelligence. Moi, ce qui ressort quand je le vois jouer et ce qui lui permet de compenser son déficit de puissance, c'est qu'il a un jeu de jambes qui est assez exceptionnel pour un poste de linebacker. Plein de petits pas, il arrive à se positionner rapidement, à changer de direction gauche-droite. Et évidemment, ça, combiné à sa lecture du jeu, à son intelligence, comme tu l'as dit, ben, ça fait qu'il arrive à équilibrer malgré ce déficit de puissance. C'est un joueur intelligent qui a intégré ses faiblesses, je pense, et qui arrive à les compenser avec un bon coaching staff, dont je pense que s'il est sélectionné, c'est parce qu'il y aura un peu de lobbying de la part d'un entraîneur ou d'un coordinateur défensif. Ça peut être franchement un bon joueur NFL. Alors pareil, à nuancer, hein, je pense qu'il ne sera pas sélectionné lors des deux premiers tours. Même le troisième, ça me paraît assez ambitieux. Peut-être qu'une équipe va faire le pari, mais j'en doute. Mais en choix de troisième jour, ouais, faut tenter, quoi. Moi c'est un joueur sur lequel je tenterai le coup.
Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est en effet un joueur... Voilà, tu peux te dire, ça peut être la grosse surprise du cinquième tour et tout le monde se dit dans 10 ans, mais comment il a pu finir au cinquième tour? Bon, on va arriver sur un nom, en tout cas un nom de famille assez connu. Et une université assez connue, etc. Et évidemment, puisqu'on va parler de Tommy Eichenberg de Ohio State. Donc, c'est à peu près le seul défenseur qui part tourner à Ohio State, hein, puisque globalement, t'as littéralement toute l'équipe qui est revenue. C'est un peu effrayant d'ailleurs pour les équipes qui vont affronter cette défense, mais bon. Tommy Eichenberg, il aurait certainement été tiers 2 il y a encore 2 mois. Mais alors, il s'est un peu gaufré au combine, notre cher monsieur.
Il s'est un peu beaucoup gaufré même. Mais voilà, le combine et tous ces tests pré-draft, combine pro day, il faut, et, enfin moi je m'y attache quand même, même si on adore tout cet événement, il faut le mettre en rapport par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Et en tout cas, si on veut sélectionner Tommy Eichenberg, il faudra presque ignorer, ou en tout cas nuancer très fortement ses résultats du combine qui étaient franchement mauvais. Sur le terrain, en revanche, il a... Alors, c'est un prospect qui est un peu ambivalent. Pourquoi ? Parce que contre la course, moi, je le trouve très bon. Alors, il n'a pas vraiment de vitesse par rapport aux autres joueurs de ce poste. Il manque un peu de vitesse, mais il a un temps de réaction qui est assez court. C'est-à-dire qu'il réagit très vite. Il arrive à anticiper les trajectoires de course. Au plaquage, il est dur comme un roc. Physiquement, franchement, il a des muscles à ne plus savoir quoi en faire. Il est solide. Il est puissant pour se libérer des blocs aussi. Et contre la course, c'est totalement le contraire. C'est-à-dire qu'il est souvent plus dans la réaction que dans l'action. Il a du mal à identifier les tracés qui se passent devant lui et il réagit souvent trop tard, c'est-à-dire après la réception. Et voilà, quand tu réagis après la réception, c'est souvent 10-15 yards déjà dans la vue. Et ça fait très mal. Ça fait très, très, très mal. Et c'est dommage parce qu'il a des qualités athlétiques qui pourraient quand même l'aider à être un bon joueur en couverture, quoi. Encore une fois, c'est pas un foudre de guerre en termes de vitesse, mais c'est pas un... En tout cas, je pense qu'il est plus rapide que ce qu'il a montré lors du combine. Il peut arriver à ben voilà, quand il est débordé, à rattraper les joueurs derrière lui. Mais malheureusement, il est toujours dans la réaction. Et ça, c'est frustrant, quoi. Tu le vois jouer, tu te dis, mais pourquoi ces qualités que tu as contre la course ne ressortent pas contre la passe ? Pourquoi tu es perdu quand il y a un tracé finalement assez commun qui se passe devant toi ? Tu attends que le joueur réceptionne la balle. Et en général, quand c'est des receveurs qui sont très rapides, tu peux même pas les rattraper derrière. Et ça fait... C'est le genre de jeu qui te tue, quoi. Quand tu es coordinateur défensif, tu vois ça, tu te dis, allez hop, monsieur, vous sortez du terrain. Ça, c'est côté négatif. Côté positif, c'est que c'est un joueur ultra productif. 200 plaquages les deux dernières saisons. Physiquement, voilà, il est prêt, quoi. Il est prêt pour la NFL. C'est plus mentalement et au niveau de la lecture du jeu qu'il faudra faire de gros progrès. C'est un joueur frustrant, des qualités évidentes, mais pas totalement exploitées. Et bon, voilà, c'est ce qui va déterminer son rôle en NFL. Est-ce qu'il va réussir à avoir une plus grande compréhension de ce jeu de passe ? Si oui, ça sera un très bon joueur en NFL. Sinon, comme on en parlait tout à l'heure pour Marist, ce sera un joueur de rotation et pas plus, quoi.
Je suis assez d'accord avec ça. J'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que... En fait, c'est ça. C'est soit il reste ce joueur qu'on voit aujourd'hui et ça sera un joueur situationnel, notamment ça sera le linebacker que tu rajoutes dans la boîte quand tu as besoin de charger un peu la boîte, notamment face à des équipes très portées sur le jeu de course. Mais il y a ce côté unidimensionnel. Et le pire, c'est que ça a l'air d'être un joueur intelligent. C'est pas qu'il ne veut pas le faire, c'est juste qu'il ne peut pas le faire. En fait, c'est ça qui est inquiétant. C'est que quand tu as un joueur volontaire mais qui peut juste pas le faire, tu commences à te dire ah, là ça devient un peu gênant. Donc ouais. On verra, mais c'est vrai que ça risque d'être un peu le type de joueur de rotation et à utilisation un peu unique. Je t'avais laissé le choix du dernier, parce qu'on avait beaucoup de monde qui aurait pu, ouais, évidemment, arriver ici. Tu as choisi à Washington Edefuan Olofoshio, pardon, okay. Encore une fois, ma prononciation des noms de famille qui est toujours catastrophique. Je pense que il y en a qui doivent m'en vouloir, je pense à toi, Nitti. Mais explique-nous, du coup, voilà, c'est quand même un joueur qui, cette année, a fait une excellente saison, qui n'a pas été mauvais du tout au combine. C'est le Combine qui t'a fait le mettre là ou déjà avant c'était un joueur que tu regardais beaucoup?
Combinaison des deux. D'abord le Combine et ensuite, ou peut-être dans le désordre, d'abord la saison qu'il a fait avec Washington. Washington, c'est une équipe que, comme tous les suiveurs de college football, qu'on a suivi avec très grande attention cette saison et à raison, puisqu'ils ont fait une année assez exceptionnelle. Et au Combine, il a fait des résultats qui, impressionnants, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas très, très satisfaisants. C'est un athlète, c'est un athlète point. Voilà, c'est un athlète très racé, il n'y a pas un gramme en trop. Il a un premier pas qui est très explosif, il est fluide, il est souple. Et ça lui permet de se frayer un chemin dans le trafic quand il y a beaucoup de monde au milieu du terrain. Pourquoi? Parce qu'il manque de puissance. Sur la puissance pure, il ne va jamais réussir à se sortir des blocs. Déjà, au niveau universitaire, il avait du mal. En NFL, il aura strictement aucune chance contre des tight ends et contre des joueurs de ligne offensive qui seront beaucoup plus costauds que lui. Mais grâce à sa fluidité et à sa souplesse, il pourra éviter les blocs. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est un joueur qu'on souhaite avoir un mec qui évite les blocs plutôt que de les confronter et de se muscler un peu, d'aller un peu au corps à corps. Ça va être au goût des staffs, au goût des coordinateurs et entraîneurs défensifs. En tout cas, pour moi, il est assez rapide pour couvrir des tight ends, voire même des receveurs. En couverture, j'étais assez étonné et très agréablement surpris. Il a des qualités qui ressortent, qui sont vraiment pas mal. Pour moi, il a un rôle qui est assez clair pour la NFL. Ce sera un wide linebacker. Il sera aligné côté faible de l'attaque. Et ce sera son rôle. On ne lui demandera pas plus, on ne lui demandera pas moins. C'est là-dessus qu'il va se construire une carrière, s'il doit se construire une carrière en NFL. Avoir son déficit de poids-puissance, est-ce que ce sera rédhibitoire pour la NFL? J'ose espérer que l'équipe qu'il sélectionnera prendra ça en compte et plutôt que de le mettre dans un programme de développement où on va lui donner à bouffer pour qu'il prenne du muscle, à plus savoir quoi en faire et perdre de ses qualités de vitesse, de souplesse, de fluidité, qu'on le laissera comme il est et qu'on adaptera finalement les plans de jeu à ses qualités. J'ai envie de dire, c'est la mentalité Bill Belichick, hein. On s'en fout de ce que tu fais pas bien. On va se concentrer sur ce que tu fais bien et on va essayer de te transformer en joueur utile pour la NFL. Voilà. Il a de gros atouts en couverture. Encore une fois, moi, c'est ce qui m'a le plus surpris, qui demande quand même un peu d'affinage, un peu plus de régularité. Mais voilà, j'espère vraiment qu'il va être sélectionné par un bon staff qui va savoir quoi faire de lui. Parce que malheureusement, s'il tombe sur un mauvais staff qui veut lui donner un rôle qui n'est pas le sien, ah, je ne serais pas étonné de le voir hors de la NFL dans 2 ou 3 ans, quoi.
Ouais, c'est tout le problème de ces joueurs-là, c'est que sur le terrain, il a fait un peu tout ce qu'il faut, entre guillemets, en college football, mais comme tu dis, ces dimensions physiques, tu les regardes, ça paraît un peu rédhibitoire. Alors bon, il a le poids, mais il n'a pas forcément la taille. Et en plus, il a le poids, mais ça ne se voit pas tellement sur le terrain. Tu as l'impression qu'à chaque fois, il perd le duel physique. Est-ce que c'est un manque d'envie? Est-ce que c'est juste un manque physique? Je ne sais pas. Mais du coup, c'est comme tu dis, quand on sait quoi lui faire faire, il peut le faire très bien. Notamment défendre un tight end, etc. Il a la vitesse, il a l'agilité pour ça. Même s'il perd le duel physique, souvent, il va s'en sortir par ses capacités athlétiques. Par contre, quand il va falloir le tacler ou aller au duel physique, bah là, souvent, ça explose, quoi. Ouais. Donc, on a envie qu'il réussisse, en fait. Mais ça fait partie de ces joueurs où, si ça se trouve, les dés sont un peu pipés du départ. C'est-à-dire que son corps ne le laissera pas réussir quand bien même ça soit un joli joueur de football. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est parfois injuste.
Ouais, malheureusement. Franchement, tout va. C'est le cas pour, j'ai envie de dire, tous les joueurs finalement, mais surtout pour ces projets, entre guillemets, qui seront sélectionnés en fin de draft. Tout va dépendre de l'équipe qui va le sélectionner et comment il va être utilisé.
Je suis d'accord avec ça. Nous avons donc fait le tour de 9 profils, et croyez-nous, au niveau des linebackers, c'est presque un exploit, de 9 profils qui verront la draft, alors où on verra, mais en tout cas, qui verront la draft. On va conclure. Allez, tu te mouilles. Le premier linebacker choisi, il est quoi? Il est fin de premier tour, début de deuxième, milieu de deuxième?
Moi, je dirais ce sera Junior Colson et plutôt milieu de deuxième tour, autour de la. Ouais, entre 50 et 60, je pense.
Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que ça va être assez violent. Les linebackers risquent d'attendre un long moment. Bon, on peut avoir une équipe amoureuse en 34 ou en 35, hein, on n'en sait rien, mais je dis ça au hasard. Hein, je n'ai pas regardé qui avait 34 et 35. Même si ici, 34, du coup, ça doit être Washington, et 35, mais après, on ne sait jamais s'ils ont échangé les picks. Mais en tout cas, je suis assez d'accord avec toi qu'ils risquent de devoir attendre. Ceux qui n'attendront pas, c'est ceux dont on va parler dans les deux prochains podcasts. On en fera un. Non, moi je n'en ferai pas d'ailleurs dans les deux prochains. Puisque vous allez parler d'offensive tackle et de cornerback. Donc offensive tackle, ce sera Nitti et Jean-Michel. Cornerback, ce sera Jean-Michel et Tonio. Deux gros programmes pour le coup. Vous allez avoir beaucoup de choses à dire. Et enfin, on va continuer. C'est lundi, mercredi, vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et on laissera ensuite le prochain lundi à la Free Agency. S'ils ont envie de faire quelque chose, même si le plus important, c'est la draft, vous le savez, puisque vous êtes là. Merci à tous. Merci, Tonio.
Merci à toi, Victor.
Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Salut, salut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.